Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Technologie.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 92e podcast d'Interstice. Cette semaine, pour rester dans la thématique sport des Jeux Olympiques de Tokyo, je vous propose de nous intéresser à l'aide que peuvent apporter les sciences du numérique aux sportifs de haut niveau et à leurs coachs. Pour en parler, nous recevons Arthur Leroy.
Bonjour.
Vous êtes jeune chercheur en mathématiques appliquées à l'Université de Paris et vous venez de finir votre thèse « Apprentissage de données fonctionnelles par modèle multitâche, application à la prédiction de performances sportives ».
Tout à fait.
Vous utilisez l'intelligence artificielle pour prévoir le potentiel de futurs nageurs olympiques, c'est bien ça ?
On essaye, même si le problème réel qu'on cherche à résoudre est quelque chose d'un petit peu moins ambitieux, mais on essaye de donner des outils objectifs pour aider à la décision, pour les fédérations ou des clubs, pour essayer de trouver quels sont leurs jeunes sportifs les plus prometteurs et essayer de prédire, évidemment, sous couvert d'une grande incertitude, les performances futures que pourraient faire de jeunes sportifs en ayant observé des données du passé et le début de leur carrière.
Et vous, en tant que chercheur, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux sciences du numérique appliquées au sport ?
Eh bien, c'était un peu de hasard et un petit peu de préférence personnelle, on va dire. Le monde du sport est quelque chose qui me suit depuis longtemps. Et c'était l'envie, à l'époque, de travailler sur un sujet qui m'importait personnellement, parce que j'avais eu d'autres possibilités sur des sujets, on va dire, plus classiques, celui-là étant vraiment très peu exploré au moment où j'ai commencé ma thèse. Mais j'avais l'envie personnelle de faire quelque chose qui ne pourrait pas faire de mal. C'était à l'époque une envie que j'avais. Et en particulier, c'était un sujet que je connaissais bien. Donc je me suis dit que j'allais écrire un petit sujet de thèse sur cette question-là. Et à l'époque, j'ai travaillé à l'INSEP, l'Institut National du Sport, et donc en discutant avec des responsables de la détection et des fédérations, ils ont émis le besoin d'avoir donc des outils objectifs pour les aider à la détection des jeunes, et on s'est dit que c'était pas idiot de monter un sujet de thèse sur cette question-là, et c'est ce qu'on a fait.
Je voudrais maintenant rentrer un peu plus dans le détail pour parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui suscite beaucoup de fantasmes, mais en quoi ça consiste concrètement ?
Alors déjà, j'aimerais faire une petite distinction que je fais souvent quand je parle de ces sujets-là, c'est qu'on entend pêle-mêle en général beaucoup de termes qui désignent des choses très différentes. Donc notamment intelligence artificielle, qui est un terme finalement souvent fourre-tout et qui regroupe beaucoup, beaucoup de problèmes différents et beaucoup de disciplines. Dans l'intelligence artificielle, on peut trouver les neurosciences, on peut trouver l'informatique, les mathématiques et plein d'autres choses, et qui voudraient qu'on essaye de mimer l'intelligence humaine ou animale avec des dispositifs technologiques et artificiels, comme on le dit. Donc là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent, on mélange machine learning et intelligence artificielle, le machine learning étant qu'une composante de l'intelligence artificielle, qu'une façon, certes très performante aujourd'hui, de le mimer, et qui, le machine learning, est vraiment une discipline à la croisée entre les mathématiques et l'informatique. Donc c'est qu'une sous-partie, et qui consiste à apprendre aux ordinateurs à apprendre, à partir de données. Donc on considère souvent l'ordinateur comme, je sais pas, un jeune humain qui serait confronté à tout un tas de données et d'expériences autour de lui, et il existe plein de stratégies d'apprentissage différentes qui sont liées à plein de, finalement, de problèmes mathématiques sous-jacents différents. Et au sein du machine learning, il existe une sous-catégorie très populaire en ce moment qu'on appelle le deep learning, qui est basé sur un algorithme qui maintenant est très populaire, qui s'appelle les réseaux de neurones, mais ce n'est qu'une stratégie parmi plein d'autres. Et à vrai dire, moi, ma thèse, je l'ai faite sur un algorithme qui n'est pas les réseaux de neurones, qui s'appelle la régression par processus gaussien, et qui, sans être particulièrement un concurrent, est juste une approche différente qui répond souvent à des problématiques différentes.
Et comme vous le disiez, vous partez des données.
Oui, alors ça c'est très important toujours dans les sciences de l'aléatoire et dans les problématiques d'apprentissage, c'est que la question centrale de l'apprentissage, et celle-ci, c'est comment à partir des données on va remettre en cause nos croyances sur le monde. Dans à peu près tous les modèles d'apprentissage, l'intérêt est d'essayer de prendre des décisions, d'agir en interaction avec le monde qui nous entoure. Donc il va forcément se baser sur un certain système de croyances ou de connaissances et de remise en cause de celui-ci à partir des données qu'on pourra soit capter par des capteurs ou soit qu'on aura recueillies en amont. En fait, ça va beaucoup dépendre, mais on veut utiliser les données recueillies pour nous informer sur le monde et où prendre des décisions. Et moi, dans mon cas de figure, donc, c'était appliqué dans un cas très particulier où on recueille des données sur les performances des sportifs à leur jeune âge et on veut essayer de décider qui sont les plus à même, donc essayer de prédire leurs performances futures et utiliser ça pour prédire ceux qu'on pense ont le plus de potentiel à devenir sportifs de haut niveau.
Schématiquement, votre algorithme utilise ces 19 années de données, l'évolution qu'il peut voir sur les nageurs du passé, pour savoir comment vont évoluer les nageurs du présent qui sont aujourd'hui en train de nager dans les bassins.
Eh bien, on espère, et donc vous avez dit tout à l'heure dans le titre de ma thèse, il y avait le mot multitâche, et c'est vraiment ce mot-là qui est à la base de la stratégie de l'algorithme que j'ai proposé. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que dans notre cas de figure, la problématique des données, la problématique spécifique du monde du sport, a un peu poussé l'innovation mathématique, c'est-à-dire que parce qu'on avait des données sous cette forme-là, et cette forme-là, c'est quoi ? C'est finalement, on a peu de compétition pour chaque nageur, parce qu'un nageur, il va pas faire 10 000, 100 000 répétitions de compétition au cours de sa jeune carrière, il va en faire au plus quelques dizaines, des fois 4 ou 5. Donc on a peu de compétitions, et qui sont pour chaque nageur pas faites aux mêmes âges. Évidemment qu'on va pas dire à tous les nageurs, faites une compétition tous à 11 ans, puis à 11 ans et 3 mois et 2 jours. Donc on a des compétitions qui viennent au fil de l'eau. Personne n'en a fait le même nombre et personne au même moment. Et donc, on a des données qui sont très particulières, qu'on appelle des séries temporelles irrégulières. Et ça, mathématiquement, c'est quelque chose qui est assez peu souvent exploré et qui a demandé une vraie innovation mathématique dans le traitement de cela. Donc, on avait peu de données par individu, des séries irrégulières, et on a voulu utiliser, comme vous l'avez dit, l'information des personnes qui ont déjà eu une carrière longue, qui ont été jeunes, puis qui ont ensuite une carrière à l'âge adulte, pour nous aider à faire les prédictions des jeunes d'aujourd'hui. Et donc, le mot multitâche, il revient à ça, il dit qu'on utilise l'information partagée entre tous les nageurs. Et c'est en ça qu'il y a une nouveauté. On utilise plus d'informations, donc l'information, dans notre cas de figure, de tous les nageurs qui ont déjà fait les compétitions et qui apparaissent dans notre base de données, au lieu d'utiliser les données d'un seul nageur, utiliser seulement ses performances étant jeune, pour prédire la suite. Et ça, il s'avère que c'était une nouveauté dans l'algorithme donc de la régression par processus gaussien dont je parlais tout à l'heure.
Arthur Leroy, je rappelle que vous êtes chercheur en mathématiques appliquées. À quelle étape de la recherche est-ce qu'elles interviennent, ces mathématiques ?
Eh bien, j'ai envie de dire, un peu partout, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quand même avant tout faire des mathématiques, même si ces mathématiques-là sont implémentées ensuite dans des algorithmes informatiquement, mais j'ai tendance à dire que je passe 50% de mon temps à écrire des équations et les autres 50% à coder ces algorithmes dans les machines, pour de vrai. En tout cas, ils sont là à la conception. En général, les algorithmes d'intelligence artificielle se basent sur des modèles théoriques, qui ont des paramètres libres, et c'est l'apprentissage de ces paramètres qui où revêt tout l'intérêt des algorithmes d'apprentissage. Donc vous pouvez imaginer qu'on développe une espèce de machine avec plein de petits curseurs, et un algorithme d'apprentissage, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde des données, et à chaque fois qu'il voit une nouvelle donnée, il va ajuster ses curseurs de telle sorte que le problème sera mieux résolu une fois qu'on a vu ces nouvelles données. On donne souvent l'exemple caricatural de on a des photos d'animaux qui viennent face à nous, des chiens, des chats et ce genre de choses. Et notre algorithme, c'est une machine finalement à nous dire, en voyant une photo, est-ce qu'on voit un chien, un chat ou un cheval ou ce que vous voulez ? Et ben, on va à chaque fois qu'on voit une nouvelle photo, ajuster les curseurs pour que la machine soit la plus à même de, en voyant une photo de chien, nous dire le mot chien.
Et finalement, c'est ce que fait votre algorithme. Il regarde les performances des jeunes nageurs et les compare aux performances que des nageurs olympiques avaient au même âge ?
Exactement. Alors, notre algorithme, il fait deux choses en parallèle. Il traite un problème qu'on appelle d'apprentissage non supervisé, qui est de regrouper les nageurs qui se ressemblent entre eux. Et en même temps, en simultané, il fait un problème d'apprentissage qu'on appelle supervisé, c'est-à-dire, en regardant des performances précédentes, il veut prédire les performances suivantes. Et donc, on fait simultanément ça. On détecte les similarités entre un jeune nageur d'aujourd'hui et est-ce qu'il ressemble ou non à des jeunes nageurs du passé qui ont eu une trajectoire similaire, je sais pas, par exemple, de 10 à 11 ans. Et si un nageur du passé a fait une certaine performance voilà, dans ses 16-17 ans, et ben il va d'autant plus contribuer à la prédiction qu'on va faire pour ce jeune nageur encore non observé. Tout ça se fait pas au doigt mouillé, on a des équations solides derrière qui nous disent comment faire la prédiction, et surtout, une chose qui est très importante pour moi, c'est à quel point on est sûr de ses prédictions. Et une spécificité de notre algorithme, c'est on donne une quantification de l'incertitude de nos prédictions, c'est-à-dire, plutôt que de donner une valeur de la performance que va faire un nageur à 16 ans, ça va plutôt être un intervalle de valeur plus ou moins crédible.
Et c'est cette innovation qui rend possible la prédiction à partir de ces données, comme vous le disiez, irrégulières des nageurs.
Exactement, c'est en ça que ça fournit quelque chose de nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, on avait voilà, des données irrégulières qui étaient très difficiles à utiliser pour améliorer la performance, donc on ne pouvait se baser que sur quelques points de données, un nageur qui faisait 5, 10 compétitions dans son jeune âge pour prédire, et maintenant, en utilisant les données issues de milliers de nageurs précédents, on peut largement augmenter les performances prédictives et la quantification de l'incertitude. Donc on a une bien meilleure idée d'à quel point on est sûr de nos prédictions.
Et du coup, est-ce que c'est fiable ?
On espère. Alors ce qu'on a montré, c'est que sur des données simulées, c'est fiable. Ça, c'est souvent l'étape numéro 1, j'ai envie de dire. Sur des données réelles, mais du passé, c'est fiable aussi. Donc c'est des modèles qu'on a validés en prenant... On imagine un jeune nageur en 2002, on regarde ses données sur 5 ans, on va dire, de 10 à 15 ans, et puis on fait semblant, on se cache les données qu'il a eues dans la suite de sa carrière, donc de 15 à 20 ans, on fait comme si on ne les avait pas vues, et on utilise notre algorithme pour faire des prédictions de 15 à 20 ans. Il s'avère pourtant que ces données, on les a évidemment observées, on les a juste gardées de côté, on compare les données de ce qu'a vraiment fait le nageur de 15 à 20 ans avec nos prédictions, et on s'aperçoit que notre algorithme, effectivement, marche parfaitement bien, avec une quantification de l'incertitude qui est exactement ce qu'on attendrait, c'est-à-dire 95% des données vraiment observées, vraiment qui se sont vraiment passées, se trouvent bien là-dedans. Donc on a un algorithme qui marche conformément à ce qu'on attendrait. La dernière étape dans tout ça, c'est de faire des prédictions dans la vie réelle, de prendre des jeunes aujourd'hui et de faire des prédictions sur ce qu'on pense qu'ils pourraient faire dans les années futures, et puis d'attendre que ça se passe pour voir si on a quelque chose qui effectivement marche en pratique.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des nageurs soient découragés par la prédiction de l'algorithme ?
Et c'est la très bonne question que l'on nous pose souvent. Alors, la façon de botter en touche avec celle-là, c'est que on pourrait aussi avoir des jeunes nageurs qui seraient encouragés à voir que leur performance, en tout cas, finalement, même s'ils ne sont pas dans les clous aujourd'hui, ils ont une très bonne marge de progression qui fait qu'ils pourraient y être. Mais évidemment, ça c'est l'éternelle question de la science et de l'utilisation qu'on en fait. J'ai malheureusement pas grand-chose à dire de plus qu'on essaie de faire progresser la science comme on peut, mais en espérant que cette utilisation soit la plus positive possible. Mais malheureusement, on n'en a pas l'assurance dans ce cas précis.
On parle au final d'un algorithme qui prévoit des performances futures à partir des performances du présent. Est-ce que c'est un outil qui pourrait être utilisé pour d'autres choses que de la natation ?
Tout à fait, c'était justement une des choses qui était vraiment intéressante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème réel de ces données a poussé à l'innovation mathématique, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui était prévu initialement, mais on a aujourd'hui un algorithme qui résout un problème bien plus large, bien plus général que celui qu'on avait prévu initialement. Donc tous les problèmes qui ont des données un peu de même nature, c'est-à-dire beaucoup de beaucoup soit d'individus ou beaucoup de tâches, séparées les unes des autres, mais qui ont des caractéristiques communes et qui sont faiblement observées, en tout cas qui sont irrégulièrement observées, et ça c'est des problèmes qu'on trouve très souvent. On peut penser aux applications médicales où on a plein de patients, imaginons qui ont des rendez-vous médicaux qui sont évidemment pas au même moment. On peut penser à des données, météorologiques, qui seraient pas observées régulièrement. D'une manière générale, à peu près tous les problèmes où on a des observations a posteriori, c'est-à-dire que on a recueilli des données un petit peu quand on a pu, on pourrait utiliser notre méthode pour rendre des résultats plus robustes en utilisant des sources différentes de données. On a beaucoup de sources différentes de données régulières, et on veut quand même avoir des prédictions fiables. Dans ce cadre-là, notre algorithme peut tout à fait s'utiliser, quel que soit le domaine d'application.
En tout cas, rendez-vous en 2024 pour les prochains Jeux Olympiques de natation, et rendez-vous à la prochaine fois sur Interstice pour un nouveau podcast. Merci beaucoup Arthur Leroy.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.